Vous êtes avec SBS French.
Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de notre série consacrée à l'histoire de l'Australie. Aujourd'hui, troisième et dernière partie consacrée à John Curtin, Premier ministre de l'Australie durant la Seconde Guerre mondiale. Nous vous avions laissé au moment de son décès, quelques semaines seulement avant la fin de la Seconde Guerre mondiale. Dans cette dernière partie, on va s'intéresser à sa postérité. C'est en effet un homme qui reste aujourd'hui considéré comme l'un des plus grands premiers ministres de l'Australie. C'est donc ce qu'on va regarder de plus près aujourd'hui avec, comme d'habitude, Romain Fati. Très bonne écoute à tous. Vous mentionniez le fait que d'anciens premiers ministres de différentes obédiences ont porté son cercueil. On a aussi souligné le fait qu'au final, il a été premier ministre un peu moins de 4 ans. C'est au final assez court. Et pourtant, encore aujourd'hui, il reste considéré comme l'un des tout meilleurs premiers ministres qu'ait jamais eu l'Australie.
Oui, c'est vrai, c'est vrai. Et souvent, dans les sondages, Curtin s'en sort bien, même. Chez les personnes qui s'identifient plutôt à droite ou au centre, il s'en sort bien parce que il est perçu comme quelqu'un qui a eu l'intelligence de think outside of the box, quoi, de penser en dehors du cadre de pensée traditionnel qui était les Britanniques, nous sommes Britanniques, les Britanniques nous aideront en temps de guerre. Et il a su voir la situation et se dire, en fait, il va nous falloir une alliance différente. Donc, non seulement il y a eu des avancées sociales, et là-dessus, effectivement, beaucoup d'Australiens ont eu de la gratitude envers lui, que ce soit les mères, les femmes dont on a parlé, les aborigènes également. Mais si vous voulez, aujourd'hui, on se souvient de lui comme quelqu'un qui a un peu sauvé l'Australie de l'invasion japonaise. Or, c'est pas vrai, il n'y avait pas eu de plan d'invasion, mais ça, comme je vous l'ai dit, on le savait pas. Et donc, effectivement, il a tenu la barre. C'est quelqu'un qui, malgré les circonstances, s'est révélé. Je pense que, enfin, c'est pas du tout comparable, mais si vous voulez, c'est comme l'histoire de Zelensky en Ukraine, quoi. C'est-à-dire que soudainement, on passe d'un ancien acteur élu président à un homme d'État et un homme d'État totalement respecté. Curtin, c'est à peu près la même chose. Non seulement il est respecté en Australie, mais il est respecté à l'étranger. Et c'est quelqu'un qui développe une excellente relation avec MacArthur, par exemple, un général américain extrêmement anti-gauche, anti-communiste. Et pourtant, ces deux-là travaillent très très bien ensemble.
Alors, c'est intéressant que vous mentionniez ce point-là parce que je voulais revenir sur... Alors, je ne vais pas classer par ordre d'importance les choses qu'a accompli Curtin pendant son mandat, mais quand même, cette alliance et ce pivot vers les États-Unis, c'est quand même un fait vraiment majeur de son exercice du pouvoir. La fin de la Deuxième Guerre mondiale, ça coïncide aussi avec le début d'une autre guerre, la guerre froide cette fois. Vous parliez de MacArthur et de sa haine viscérale des communistes et de tout ce qui s'apparenterait un peu trop à la gauche de manière générale. Et j'ai cru lire dans certains articles les États-Unis quand même se méfient un petit peu de l'Australie tendance travailliste en tout cas. Et que c'est pour ça que le traité ANZUS, donc le traité d'alliance militaire entre les États-Unis, la Nouvelle-Zélande et l'Australie, eh bien, il a fallu attendre 1951 pour qu'il soit signé. 1951 parce que à cette époque-là, eh bien, c'était à nouveau les conservateurs qui étaient au pouvoir. Donc, pour revenir, vous disiez à quel point l'Australie a quand même joué un rôle important de base arrière pour la guerre dans le Pacifique et la victoire des Américains. Et pourtant, l'Australie, donc, ils s'en méfiaient quand même un petit peu. Ils n'avaient pas totalement confiance.
Alors oui, d'une part, ce qui est paradoxal, hein, parce qu'à l'époque, il s'agit de présidents américains démocrates, Roosevelt puis Truman. Roosevelt, en fait, c'est quand même ce qui, à l'époque, se faisait plus à gauche aux États-Unis, quoi. Enfin, en termes de président, hein, bien sûr qu'il y a des personnalités beaucoup plus à gauche que Roosevelt, mais la relance après la crise de 29, les grands projets, etc. Donc c'est du socialisme pour certains Américains, ce genre de choses. Mais effectivement, Il y a quand même un doute sur ce que l'Australie va devenir, et puis surtout, en réalité, il y a peu d'intérêt pour les Américains. C'est-à-dire qu'en 45, ce sont les rois du monde, ils ont l'arme atomique. Staline ne l'a pas encore, il faut attendre 49 de mémoire. Je devrais savoir ça, là j'ai un trou, 47 ou 49, 49. Donc, si vous voulez, il n'y a pas de nécessité pour les États-Unis de forger une alliance avec qui que ce soit à ce moment-là. Et l'ANZUS arrive en 51 pour plusieurs raisons. Non seulement parce qu'effectivement, l'Empire britannique est sur le déclin et qu'il ne va pas y avoir de retour d'un Empire britannique fort dans le Pacifique, que les États-Unis s'y sont installés pour de bon. On se souviendra que, il y a une force d'occupation au Japon, hein, comme il y a une force d'occupation en Allemagne. Bon, les États-Unis, les Australiens et d'autres, occupent le Japon. Et donc, à mesure que la présence des États-Unis dans le Pacifique se solidifie, et surtout à mesure que la guerre froide avance, c'est-à-dire là en 51, pour le coup, on arrive à un moment où non seulement les Soviets ont la bombe nucléaire atomique, mais aussi à hydrogène. De mémoire, je crois qu'elle arrive en 51-52, enfin dans ces eaux-là, les États-Unis effectivement vont avoir besoin d'alliances. C'est pas tant l'Australie et la Nouvelle-Zélande qui viennent s'agenouiller en demandant s'il vous plaît, venez nous protéger. Il y a de ça, effectivement. Mais les États-Unis, ils agissent dans leur intérêt national. Et l'intérêt national des États-Unis, c'est de pouvoir contrôler cette zone du Pacifique. Et d'ailleurs, au sein des années 60, ça se développera par l'installation de tout un tas de bases d'écoute pour lancement des missiles balistiques, etc., américaines en Australie. Donc, effectivement, la Seconde Guerre mondiale et Curtin a été vraiment un des acteurs majeurs là-dedans. C'est si vous voulez, la transition de Londres s'occupe de notre politique militaire et de nos affaires étrangères, et on se tourne vers Washington. Et depuis, effectivement, et encore, on le voit très très clairement aujourd'hui, Canberra s'aligne quand même très souvent sur Washington.
Oui, même presque systématiquement. Ouais. Alors un dernier mot pour parler d'une actualité beaucoup plus récente. On l'a dit, John Curtin, il est mort en 1945 et donc en juillet dernier, eh bien, c'était les 80 ans de sa mort, occasion à laquelle le Premier ministre actuel, Anthony Albanese, qui lui aussi est travailliste, s'est rendu à Perth pour lui rendre hommage. Et au cours de son discours, eh bien, il a tenté de s'inscrire lui-même dans le sillage de son prédécesseur, un petit peu pour s'auréoler de la gloire de cet homme qui est célébré donc par, en gros, un peu tous les partis en Australie. Et en fait, son discours a été articulé autour du fait que John Curtin, il a d'une certaine manière préservé l'indépendance et l'autonomie de l'Australie en forgeant cette alliance avec les États-Unis. Et moi, bah, j'ai trouvé ça un petit peu paradoxal d'abord parce que, bah, certes, s'affranchir d'une ancienne puissance coloniale pour tomber dans les bras d'une nouvelle superpuissance, je ne sais pas si c'est comme ça que je définirais personnellement l'indépendance et l'autonomie. Et qui plus est, vous mentionniez tout à l'heure les très bonnes relations que John Curtin avait eues pendant la guerre avec le général MacArthur, qui par la suite s'est pas que illustré pour son grand humanisme, on va dire. Et en gros, l'une des raisons de ces très bonnes relations entre les deux hommes, c'est que John Curtin a dit, les soldats australiens, vous en faites ce que vous voulez, lorsque vous leur donnez des ordres, c'est comme si c'était moi-même le gouvernement australien qui le faisait. Et puis vous l'avez dit, fin, établissement de nombreuses bases, 2 millions de GI pour seulement 7 millions d'Australiens sur le même territoire. C'est une drôle de conception de l'indépendance quand même, non?
Alors là, vous allez m'attirer des ennuis. Alors, je vais reprendre les choses. L'avantage des morts, c'est qu'on peut leur faire tout dire. Donc, en France, on le sait bien, il y a beaucoup de politiques qui vont citer Jaurès, De Gaulle, enfin, peu importe qu'ils soient de ce parti politique ou pas, ils se réapproprient des tartes à la crème. Voilà. Bon, après, est-ce que les gens avalent ou pas, probablement, ça m'étonnerait. À peu près, on est plus intelligent que ça. Mais vis-à-vis de l'hommage à Curtin, évidemment que là, Albanese essayait de se placer dans son ombre et en récupérer la lumière vis-à-vis de l'alliance avec les États-Unis, parce que c'est le sujet clé en ce moment. Quand on a quelqu'un comme Trump à la Maison-Blanche, Et quand on met tous ses œufs dans le même panier vis-à-vis de sa défense nationale, c'est problématique. Et donc, effectivement, il tenait à cœur au Premier ministre Albanese, qui est également un travailliste comme Curtin, de rappeler que la défense de l'Australie, ça se fait avec un partnership états-unien. Alors, je comprends que dans une conception française et gaullienne, hein, d'un sens, de la souveraineté, ça puisse vous paraître bizarre. Mais en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est la différence entre la souveraineté et la sécurité. En France, on conçoit la sécurité comme consubstantielle à la souveraineté. Il n'y a pas de souveraineté sans sécurité par soi-même, et il n'y a pas de sécurité par soi-même sans souveraineté. Très bien. Ça veut dire que voilà, on ne regarde ni vers Moscou ni vers Washington. On obtient nos propres armes nucléaires qu'on développe, etc. Et on assure nous-mêmes notre propre défense. L'Australie n'a pas la taille critique ni la volonté politique d'être indépendante. C'est une ancienne, une série d'anciennes colonies britanniques dont la sécurité a été assurée pendant des décennies par la Grande-Bretagne, puis après par l'Empire britannique dont l'Australie faisait partie, et donc une co-défense, si vous voulez, et depuis par Washington. Et depuis la Seconde Guerre mondiale, toutes les guerres auxquelles les Américains ont contribué, les Australiens y ont contribué également, soit sous leur propre commandement, soit en étant, comme vous l'avez rappelé, sous pseudo, voire commandement intégral américain. Et effectivement, dans le cadre de la Deuxième Guerre mondiale, vous avez des soldats australiens, des divisions en l'occurrence, qui ont été déployés par ordre et par stratégie américaine. C'est aussi l'intelligence de Curtin d'un sens. C'est pas quelqu'un qui a voulu jouer au petit Napoléon. Il avait quelqu'un de compétent, un soldat de formation. Comment dirais-je, MacArthur, il a fait la Première Guerre mondiale, hein, il a vu le combat. C'est pas un général de bureau, hein. Et donc il lui a laissé la main libre sur la gestion de la guerre. Et ça s'est bien goupillé parce que MacArthur lui a dit, bon bah, vous êtes chez vous, je vous laisse gérer votre pays. En revanche, côté militaire, il va falloir me faire confiance. Et c'est ce qu'a fait Curtin. Mais à quel prix, effectivement? Est-ce que voilà, est-ce qu'un pays qui est autonome peut accepter ça? Bah, la question se pose encore avec le contrat des sous-marins, parce que j'imagine que c'est un peu là où vous m'emmeniez progressivement. Le renforcement des liens entre l'Australie et les États-Unis par le deal de défense avec les Britanniques AUKUS. Bon, quelle sera la part des Australiens? On ne sait pas. Je vais pas tellement rentrer là-dedans parce qu'il y a beaucoup quand même de suppositions, mais par rapport à l'histoire, le comportement d'Anthony Albanese, Premier ministre australien d'aujourd'hui, qui glorifie l'image de Curtin dans sa relation avec les États-Unis, on voit très bien qu'en fait, ça sert les intérêts présents, si vous voulez.
Ouais. Ben merci pour cet éclairage. Vous parliez eh bien effectivement de la relation très étroite et de dépendance peut-être d'asservissement de l'Australie vis-à-vis des États-Unis. Ça, c'est chacun son interprétation. Mais c'est un sujet sur lequel on va revenir dans le prochain épisode puisqu'on va parler d'un autre premier ministre britannique qui a marqué l'histoire de l'Australie. Lui, pas forcément pour des raisons très positives, c'est Gough Whitlam. Et encore aujourd'hui, il se bruit que ce Premier ministre, le seul dans l'histoire à avoir été évincé du pouvoir par le gouverneur général, en gros, la Grande-Bretagne a rappelé que eh bien, c'était son monarque, le chef de l'État en Australie, pourrait avoir été poussé à le faire par les États-Unis qui n'aimaient pas beaucoup ce gros gauchiste de Gough Whitlam. Mais on en parlera prochainement.
Oui,
Merci.
alors oui, on va en parler. Il y a beaucoup de théories. Il y a un autre Premier ministre, mais cette fois-ci de droite, qui aurait été enlevé par un sous-marin chinois en 67. Enfin, on pourra parler de tout ça, mais souvent, quand il y a des théories un peu fumeuses, C'est parfois quand même basé sur des perceptions un peu réelles. On reprendra ça ensemble.
Avec grand plaisir. Ben, merci encore, Romain, et à très bientôt à tous pour un prochain épisode. Merci.
Merci Grégory, au revoir.
Vous voulez entendre d'autres rubriques comme celle-ci? Écoutez-les sur Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify ou n'importe où vous obtenez vos podcasts.